Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, Les combattantes, sortir des violences faites aux femmes, une série de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a une soirée de Nouvel An qui a viré au cauchemar. Il y a aussi une chanson, de plus, aux paroles d'une brutalité inouïe, et des mots qui sont souvent le point de départ de la violence, des mots faits pour humilier. Et puis il y a l'envie de décortiquer ces mécanismes qui détruisent et de redire que le viol est une volonté d'anéantir, voire une arme de guerre. Et surtout, il y a le souhait de donner la parole à ceux qui soignent et bien sûr à celles qui reprennent la main, racontent et récupèrent le contrôle de leur corps et de leur vie. Parce que théoriquement, il y a toujours une fin au cauchemar. Pour commencer, les personnages, des femmes qui ont eu peur, des couples qu'on ne croit pas, des femmes qui n'oublient pas, des maris qui n'en reviennent pas, un sociologue qui creuse et qui démine, une journaliste qui ne décolère pas, un couple de réfugiés de Syrie et le couple qui les accueille. Ensuite, le décor. Des villes allemandes, une rédaction, des places, des rues, des gares, des foules compactes et effrayantes, une impasse qui est comme un refuge, des mains qui s'agrippent, la stupeur et des questions. Aujourd'hui, 4e épisode, on est en France et en Allemagne, et avant de comprendre, il faut se souvenir de ce qui s'est passé le 31 décembre 2015.
À la une ce matin, après le choc, les répliques, manifestations xénophobes, tensions autour des migrants, expéditions punitives, l'Allemagne n'en a pas fini avec les conséquences de la nuit de cauchemar du réveillon à Cologne.
Violence à Cologne, entre stupeur et tremblement. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet.
Toute la place était remplie de gens, uniquement d'origine étrangère, que des hommes. Ils étaient tous grands, avec les cheveux noirs. On avait l'impression que la situation pouvait s'enflammer d'un moment à l'autre. On a essayé de se frayer un chemin à travers la foule, mais ça n'a pas fonctionné. La foule a fini par nous avaler. On s'est retrouvés encerclés par tous ces gens, et puis ils ont commencé à nous toucher. On disait arrêtez, mais ils n'ont pas arrêté. Et ils nous ont touchés vraiment fermement, sur des parties du corps où on ne touche pas une fille normalement. Ils nous ont touchés partout. Ils ont aussi essayé de nous séparer des garçons, de notre groupe, en nous prenant par les bras et par les épaules. À ce moment-là, on était paniqués. On avait peur de plus pouvoir partir. J'ai réalisé qu'ils m'avaient volé mon portable. 2 jours plus tard, j'ai porté plainte pour vol. Et quelques jours après, j'ai élargi ma plainte pour agression sexuelle quand tous les journaux se sont mis à en parler.
L'ambiance était très agressive. Il y avait tous ces groupes de jeunes. Ce n'étaient pas des Allemands. Ils couraient dans tous les sens. Ils hurlaient et nous lançaient des feux d'artifice. On se serait cru sur un champ de bataille.
Les troubles faits étaient-ils des migrants ? Pour Anya, là n'est pas la question. Les agressions qui ont émaillé la soirée sont de toute façon inacceptables.
On était là, et tout à coup j'ai vu un homme petit, aux cheveux bruns, qui a soulevé Tabea. Il la prenait dans ses bras et la serrait tellement fort qu'il l'empêchait de respirer. Elle a dit « Arrêtez, je ne peux plus respirer, lâchez-moi !» J'ai repoussé l'homme en arrière, et un autre a surgi. Il a enlacé ma fille par derrière et lui a pincé les seins. Le soir du Nouvel An, il n'y avait pas un seul véhicule de police ici. Sur les quais de la gare, pas de policiers. Je n'ai vu qu'une policière. Elle essayait de se défendre contre la meute. Je me suis demandé comment c'était possible. Peu de temps après, j'ai vu le rapport officiel de la police qui disait « Nuit normale pour une Saint-Sylvestre ». Je ne comprends pas comment ils ont pu arriver à ces conclusions.
Keine Ahnung, mir fehlt da völliges Verständnis, wie man auf diese These kommt.
Mais que s'est-il réellement passé à Cologne et dans les villes voisines le soir du 31 décembre 2015? Comment des centaines de femmes ont-elles été agressées sans que la police soit intervenue pour les protéger? Les agresseurs ont-ils agi de façon concertée? Appartiennent-ils à une organisation politique ou mafieuse? Des violences qui ont scandalisé l'Allemagne. 10 jours après les agressions, 516 personnes avaient déjà porté plainte, dont environ 40% pour des faits d'agression sexuelle. Depuis, très peu d'interpellations ont eu lieu. Et plus d'un an après les faits, l'Allemagne peine toujours à répondre. des conceptions s'affrontent et se répondent dans la lutte pour l'égalité homme-femme.
Les faits sont clairs. Ce soir-là, devant la gare, entre gare et cathédrale, il faut dire, ça joue aussi.
Hein? Ali Schwarzer, journaliste allemande.
Si c'est beaucoup, vous avez 100 à 200 personnes qui traversent, qui vont de là à là, dans la gare. Personne reste sur cette place. Et là, ce soir-là, plus que 2000 arrivent et restent. Et aujourd'hui, on le sait, il y a eu 2 à 3000 hommes. Et à partir de 18h déjà, ils ont jeté des pétards contre la cathédrale et tout ça. Déjà étonnant que la police n'ait pas intervenu. Et donc plus tard, c'est produit ce qu'on appelle dans les pays arabes le cercle d'enfer. Il y a eu cette grande masse de jeunes hommes, comme ça. Et bon, ils se sont jetés sur les femmes qui sont passées, des jeunes femmes, des mères de famille, tout ça. Ils les ont séparées des hommes, encerclé les femmes et les attaquer virulemment, toucher les seins, essayer de les pénétrer. Il y a eu plusieurs viols et tout ça. Le phénomène choquant est que ça s'est passé entre peut-être 9h et 3h la nuit, plusieurs heures. Aujourd'hui, on a plus que 600 plaintes pour violences sexuelles. Mais ce soir-là, personne n'est intervenu. Il y a eu la police, 150 policiers sur la place, une cinquantaine dans la gare, mais ils n'ont pas aidé aux femmes. Alors, pourquoi ?
Cette nuit-là, on avait notre dispositif habituel.
Représentant syndical de la police de Cologne.
Mais on s'est retrouvé débordé face à des individus violents et déterminés en très grand nombre. On n'était pas préparé à cela et, très franchement, je ne sais pas de combien de policiers nous aurions eu besoin pour gérer la situation. Ensuite, les plaintes sont arrivées petit à petit, par Internet ou depuis différents commissariats, parce que les victimes habitent dans différentes villes. C'est pour ça qu'on a mis du temps à avoir une vision d'ensemble.
J'ai très vite pensé que, premièrement, la police a eu peur elle-même. Ils étaient une bonne centaine en face de 2000 jeunes hommes, et pas très, très timides, hein. Et deuxièmement, il y a eu un ordre politique, direct ou indirect, qui était là depuis longtemps. Surtout, il ne faut pas chercher des ennuis avec les immigrés et surtout pas avec les réfugiés.
À 22h57, Claudia Rosen descend d'une rame de la ligne 18 avec son compagnon et ses deux enfants, une fille de 15 ans et un fils de 13 ans. La famille habite à Zülz, un quartier de Cologne, et s'apprête à partir au bord du Rhin, puisque, comme le veut la tradition, les habitants de Cologne regardent le feu d'artifice depuis les rives du Rhin. Les quatre prennent l'escalier roulant qui mène dans le hall de la gare. Et là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes dans le hall. L'espace d'un instant, j'en étais étonnée. Ce n'est pas dans ce hall ou sur le parvis de la gare que les gens fêtent la Saint-Sylvestre. On ne fait que les traverser, et encore. Quand par instinct, ils remontent les fermetures éclairs de leurs vêtements jusqu'au cou et se prennent par les mains. Il était 22h57. Je le sais à la minute près car il y a cette grande horloge dans le hall de la gare. Tout d'un coup, une fusée du Nouvel An explose en plein milieu du hall. Comme un signal de départ, se rappelle Claudia Fosen. À l'extérieur, ces masses d'hommes se pressaient pour pénétrer dans le hall. Des cris, des hurlements, une bousculade.
La première chose qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé ne s'est pas passé seulement à Cologne.
Éric Fassin, sociologue.
Ça s'est passé dans plusieurs villes en Allemagne, ça s'est passé dans plusieurs villes en Europe, simultanément. C'est un élément important et qui a été peu pris en compte. Et le fait qu'on parle de Cologne est une manière aussi d'oublier cette simultanéité. Ce qui s'est passé, c'est une foule de gens, d'hommes, en particulier, qui a agressé des femmes. Il se trouve que ces hommes étaient, dans l'ensemble, des Arabes. Dans un premier temps, on a dit « ce sont des réfugiés syriens » et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que c'était plutôt des Maghrébins qui qu'ils aient le statut de réfugiés ou pas.
Il y a eu deux choses. Il y a eu, un, très peu d'informations dans la presse. Donc très peu d'informations qui nous permettaient de savoir ce qui s'était passé.
Anne-Cécile Maëfer, Fondation des Femmes.
Et d'un autre côté, beaucoup de bruit nauséabond qui venait manifestement de personnes d'extrême droite ou partageant les idées de l'extrême droite et de sites d'extrême droite. Donc quand on est face à ça, la première chose à faire, c'est d'être prudent et d'attendre de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de surréagir à quelque chose qui est manifestement nourri par l'extrême droite.
Quelle est la part de ce qui serait une forme de prudence pour des raisons idéologiques et quelle est la part de ce qui serait une forme d'indifférence également pour des raisons idéologiques? Pour ma part, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait est que ça n'est pas sorti tout de suite et que c'est sorti surtout par l'extrême droite et que donc s'est posé la question de savoir comment on allait interpréter ça. Et c'est là que commence une bataille pour donner du sens à ce qui se passe. Et cette bataille s'inscrit dans un contexte. Ce contexte, c'est que ce réveillon 2015, c'est aussi le grand discours de Nouvel An de Angela Merkel en Allemagne sur les réfugiés.
Mon mari a été arraché de nos mains. Il a disparu dans la foule qui nous encerclait comme un mur. J'avais passé un bras autour de mon fils qui était devant moi. Mon autre main a cherché derrière moi celle de ma fille. Elle s'est agrippée à mon dos. Elle n'était pas devant moi, c'était une faute. Elle a de longs cheveux blonds. Tout d'un coup, il y avait des mains partout sur nos corps. Elles nous pelotaient les seins, nous saisissaient brutalement l'entrejambe, tiraient de force nos fermetures éclair, des doigts épluchaient le tissu de nos vêtements en quête d'une ouverture. Heureusement, ma fille et moi portions des pantalons. Ils se sont même baissés pour mieux nous toucher l'entrejambe.
Nous, Emma, mon journal, on est à 10 minutes, un quart d'heure à pied de cette place et on était très très vite informés. Le lendemain, mes collègues m'ont téléphoné et se sont dit « Alice, il y a des choses bizarres qui se passent ici ». Mais les journaux n'en parlaient pas. Moi, quand j'ai écrit mon premier commentaire le 3 janvier, j'ai même écrit, et j'en étais sûre, que ce soir-là, il n'y a pas eu des réfugiés. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'on soit réfugié. Et combien faire des saloperies pareilles, parce qu'ils veulent quand même rester chez nous. Alors je me suis dit, ça va être des émigrés, des jeunes, des banlieues qui ont... Bon. Mais très vite, on a su, c'était le contraire. C'était presque à 100%, soit des réfugiés, des demandeurs d'asile, des sans-papiers. Et en majorité, des gars du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et quelques Syriens. Alors là, maintenant, le choc était là. Hein? C'était un choc énorme pour l'Allemagne. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'avant-sylvestre et après. Ce qui est de nouveau dans ce phénomène, cette nuit à Cologne, c'est le fait que cette violence s'exerce collectivement et publiquement. Et personne ne fait rien contre. Ça ne s'est jamais produit en Allemagne depuis la fin de la guerre. Ça n'existait pas. Je veux dire, on avait un violeur dans son propre lit ou dans la rue ou un petit groupe de gangsters là qui suivent une fille après la boîte. Mais il y a 2000, aussi la dimension et c'était une démonstration, hein, c'était une démonstration publique, c'est ça.
Ils sont quatre Syriens qui ont quitté leur pays il y a 7 mois. Malgré le vent glacial qui balait le parvis de la cathédrale, ils distribuent leurs tracts. Sur les feuilles vertes et blanches, on peut lire « Nous condamnons les agressions, nos valeurs ont été bafouées par ces agissements criminels ». C'est Shadi, 26 ans, qui est à l'initiative du projet.
Après tout ce qui s'est passé à la Saint-Sylvestre, on a eu peur que les gens nous regardent de travers et qu'ils nous rejettent. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire et on a eu cette idée. On s'excuse et on en profite pour remercier l'Allemagne pour toute l'aide qu'elle nous apporte.
Et pour Shervan, Syrien de 25 ans, c'est aussi l'occasion de faire une mise au point.
Le monde entier doit savoir que ce sont des agissements commis par 2 ou 3 groupes isolés, mais ce n'est en aucun cas la culture islamique ou la culture arabe. Nous, en Allemagne, nous respectons les femmes et les Allemands.
Enfin, cette masse d'hommes furieux les recrache sur le parvis de la gare. Il est presque vide. Seuls, sur les bords, se tiennent quelques hommes. Et là, le mari de Claudia refait surface. J'ai regardé l'heure. Il était exactement 23h25.
Donc c'est presque pendant une demi-heure que nous avions été dans cet enfer. Ma fille était en sanglots et criait « Ne me touche pas !» Mon fils s'était fait voler son téléphone portable. Et mon mari disait « Faut qu'on décampe !»
Je crois que c'était vraiment une mafia qui voulait détrousser et qui, par ailleurs, voulait terroriser effectivement les femmes dans cette ville à ce moment-là. Je n'en sais pas plus, mais je crois que c'était quelque chose qui était assez coordonné.
Le ministre de la Justice allemand a d'emblée dit « Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a rien de concerté dans cette affaire. » Il y avait quelques indices, comme par exemple le fait que ces hommes étaient arrivés, pour certains d'entre eux, avec des petits papiers qui ont été reproduits dans la presse, où on voyait des insultes sexistes à l'encontre des femmes qui étaient traduites de l'arabe à l'allemand. Autrement dit, ils s'étaient préparés. Ils n'étaient pas venus comme ça, ils n'avaient pas improvisé, ils avaient décidé d'avance qu'ils allaient insulter des femmes et peut-être les agresser. Il y a un deuxième élément, ce sont des témoignages qu'on n'a pas vus dans la presse française, mais qui étaient, par exemple, dans un journal respectable comme le Guardian, de femmes qui étaient dans cette foule et qui ont vu certains des hommes qui étaient en quelque sorte en train de diriger les autres et de les relancer pour qu'ils aillent à nouveau agresser des femmes ici et là. Donc, premièrement, il y aurait préméditation et deuxièmement, il y aurait aussi une organisation. On pourrait se dire, comme certains l'ont suggéré, que ça peut être des bandes organisées qui voulaient en profiter pour voler des téléphones portables, etc. C'est bien possible. Cela dit, ça n'est pas la manière la plus efficace d'opérer, puisque ça a déchaîné une répression policière contre ces criminels, disons, ordinaires. Mais aussi, surtout, ça n'explique pas pourquoi ça s'est passé simultanément dans plusieurs villes en Europe.
On peut partir du principe que les auteurs présumés ont communiqué entre eux.
Marcus Scott, porte-parole de la police criminelle fédérale allemande.
Et se sont donné un lieu de rencontre par les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit pas de criminalité organisée comme nous l'entendons en Allemagne. Quand on parle de crime organisé, on parle de groupes fermés sur eux-mêmes et hiérarchisés.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces hommes ont profité d'une occasion? Est-ce qu'ils se sont sentis autorisés? C'est possible. Mais en même temps, on peut être frappé que des migrants en Europe aujourd'hui aient l'impression qu'ils ont tous les droits. D'ordinaire, on a plutôt l'impression que les migrants ont compris qu'ils n'ont pas tous les droits, et même qu'ils n'ont pas beaucoup de droits. Donc, on peut se demander quel est le sens du fait qu'ils osent avoir ces pratiques. C'est pas simplement qu'ils auraient des pulsions sexuelles ou culturelles, c'est qu'ils vont jusqu'à le faire. Et ils vont jusqu'à le faire avec le risque d'avoir des ennuis. Des ennuis pour eux-mêmes, mais plus largement, comme on l'a vu, pour les migrants. Et c'est là que, pour ma part, j'ai été frappé du fait qu'on ne s'est pas beaucoup interrogé sur leur logique.
C'est une guerre sexuelle. La violence sexuelle dans les guerres, on le sait très bien. Susan Bramley a écrit ce livre formidable qui est apparu chez nous dans l'année 77, Against Our Will, contre notre volonté, et où la première fois, une féministe comme elle, a analysé la fonction du viol dans la guerre, hein, du viol collectif. Et que ça n'a rien à voir avec ce pauvre chéri, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une femme, mais que c'est une arme pour briser les femmes, pour les mettre enceintes aussi, et pour briser l'honneur des hommes. Voilà. C'est une arme utilisée systématiquement de tous les côtés, dans les guerres. Et pour moi, oui. C'est le commencement d'une guerre sexuelle, oui, oui. Vous voyez, j'hésite à le dire, parce qu'on me traite de tous les noms quand je le dis, mais c'est ça, c'est une guerre sexuelle contre les femmes plus libres en Europe, et on a voulu là statuer un exemple. Et quand je dis « on a voulu statuer un exemple », les 2000 hommes, ils n'étaient pas tous consciente tout à fait, je veux dire, c'est un mélange entre provocation, volonté de le faire, et hop, j'y vais aussi parce que, oui, ça m'excite.
Marie-Éric Fassin, vous avez parlé de terrorisme sexuel suite à ces agressions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez parlé de terrorisme sexuel ?
Je crois qu'on peut se poser la question en termes d'hypothèse. Je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, donc je n'ai pas les moyens de mener une enquête. Simplement, je constate, premièrement, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de penser que c'est pas simplement que d'un seul coup, des gens ivres ont improvisé, mais que, voilà, il y a eu quelque chose en amont. Le deuxième élément, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est un coup d'arrêt à la politique d'ouverture aux réfugiés en Allemagne, avec un changement complet du discours public et le retour en force de l'opposition entre eux et nous, et l'idée que peut-être qu'on peut se le permettre de les accueillir, ces réfugiés, mais on ne le veut pas, non pas parce qu'on est xénophobe, non pas parce qu'on est raciste, non pas parce qu'on manque de générosité, mais parce que nous croyons à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est pour de bonnes raisons que nous ne voulons pas d'eux. Donc ça, c'est la conséquence. Je crois qu'on peut faire l'hypothèse que si d'une part, il y a eu concertation, organisation, préméditation, et que d'autre part, il y a des résultats qui sont ceux-là, eh bien, une des possibilités, c'est qu'il y a des gens qui ont souhaité qu'il en soit ainsi. Parce que qu'est-ce qui se passait jusqu'alors ? Le terrorisme en Allemagne, on ne l'avait pas vu. Il était dans d'autres pays. Donc je me pose la question, qui a intérêt à ce que l'Allemagne change de politique à l'égard des réfugiés. On pourrait se dire l'extrême droite, mais il n'y a aucune raison empirique de penser que l'extrême droite est derrière ce qui s'est passé. Donc qui d'autre y a intérêt ? Eh bien, on sait que l'État islamique défend une position qui est explicite, c'est qu'il faut en finir avec la zone grise. La zone grise, c'est quoi ? C'est tous les gens qui refusent l'opposition entre eux et nous. C'est-à-dire tous ceux et du côté des musulmans, et du côté des non-musulmans, qui n'adhèrent pas à cette vision du conflit des civilisations. On sait que, à certains égards, Ben Laden considérait Bush comme son meilleur allié. Eh bien, aujourd'hui, je crois que l'État islamique considère que tous les tenants d'extrême droite ou pas du conflit des civilisations, ce sont également des alliés objectifs, c'est-à-dire ils partagent une même vision du monde, il faut choisir son camp et il faut surtout en finir avec toutes celles et tous ceux qui seraient tentés de dire c'est plus compliqué. Donc, je ne sais pas si l'État islamique a contribué à l'organisation de ces agressions. Mais je me demande pourquoi cette hypothèse n'est jamais envisagée, alors qu'elle permettrait de rendre compte de la simultanéité dans plusieurs villes européennes. Parce que s'il y a concertation, ça ne peut pas être simplement des petites bandes criminelles de telle ou telle ville.
Vous aurez été revendiqué depuis ?
Ça aurait pu être revendiqué, mais pas forcément. Parce que justement, ça n'est pas apparu comme du terrorisme. C'est pour ça qu'il me paraît utile de poser la question.
Le harcèlement sexuel des femmes par des groupes d'hommes,
Marcus Koch,
c'est quelque chose que nous ne connaissions pas en Allemagne jusqu'ici. Cela existe dans d'autres pays, surtout les pays arabes, comme en Égypte. Il arrive que lors de grands événements, comme des manifestations, des groupes d'hommes encerclent des femmes, les isolent du reste de la foule, puis les agresse sexuellement et parfois même les viole. On appelle ça le Taharouch Jamai.
Taharouch Jamai, une expression arabe qui signifie harcèlement collectif. Un phénomène filmé en 2013 en Égypte, place Tahrir. Des vidéos terrifiantes réutilisées par des sites d'extrême droite et même la télévision hongroise, qui prétendent qu'il s'agit d'images de Cologne, alors qu'elles ont été tournées au Caire 3 ans plus tôt.
Le problème, c'est qu'on a parlé de ces hommes, encore une fois, avec ce filtre de la peur de l'invasion de migrants qui viendraient violer les femmes en France, etc. Et je pense que nous, les féministes, en fait, c'était piégeux du début à la fin, on avait très peu de marge de manœuvre. En fait, on nous a exhortés de dire que les migrants étaient des violeurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, parce que ça nous arrive très régulièrement, les droits des femmes sont instrumentalisés par l'extrême droite, sont instrumentalisés pour dénoncer une partie des hommes qui seraient des hommes migrants, qui seraient des hommes qui viendraient de cultures musulmanes, qui seraient spécifiquement ultra-violents, ultra-dangereux et des violeurs en série, en fait. L'idée de l'extrême droite, c'est de dire les migrants sont des violeurs en puissance, donc si vous les faites venir en France ou en Europe, ils vont violer vos femmes. C'est ça le message. Et la preuve, pour eux, c'est les événements de Cologne. On ne savait rien, et pourtant l'extrême droite savait déjà tout, c'est-à-dire on avait la preuve que les migrants, lorsqu'ils viennent en Europe, ils viennent violer vos femmes.
Donc il suffirait de fermer les frontières pour arrêter d'être en danger.
C'est ça. Ça donnerait l'illusion aux femmes qu'en fermant les frontières, elles se protègent du viol. Nous, les féministes, ce qu'on sait, c'est que c'est malheureusement pas du tout aussi simple que ça. Les chiffres, notre expérience quotidienne, nous prouvent tous les jours que les femmes sont d'abord violées par des hommes de leur entourage, des hommes qu'elles connaissent, ça va être des collègues de bureau, des hommes de leur famille, ça va être leur conjoint. Et donc dire « on va virer les migrants et comme ça les femmes seront en sécurité », c'est une illusion, c'est aberrant, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la vérité. Alors ce qui était également intéressant de voir, c'est qu'on a énormément parlé de cet événement de Cologne, alors même qu'il y a à d'autres moments des rassemblements d'hommes, majoritairement, et de femmes, des rassemblements festifs, dans lesquels les hommes vont, de manière importante, agresser des femmes. Au fait de Bayonne, il y a toujours des viols, il y a toujours des agressions sexuelles. À toutes les grandes fêtes, en fait, là où il y a de l'alcool et des hommes qui font en bande d'hommes, font la fête ensemble, il va y avoir des agressions de femmes. Donc si on a dit ça, c'est parce qu'il était important pour nous de ne pas mentir aux femmes, de ne pas mentir sur la réalité du danger et la réalité des agressions, la réalité du profil des agresseurs. Si on se trompe de problème, on n'apportera jamais de bonnes solutions. Donc c'est important de ne pas se tromper de problème. En Allemagne, par exemple, après ce qui s'est passé à Cologne, il y a eu enfin une évolution de la législation sur les agressions sexuelles et le viol. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à ces événements-là, les féministes essayaient tant bien que mal de faire évoluer la loi. Mais quand il s'agissait, on va dire, d'hommes allemands qui violent ou d'hommes allemands qui agressent, eh ben en fait, les choses ne bougeaient pas. Et quand il y a eu des hommes qui sont venus d'autres pays, qui ont agressé de manière massive, hein, c'est très grave ce qui s'est passé, eh ben tout à coup, il y a eu un mouvement dans l'opinion publique qui a amené la loi à évoluer. Et là, c'est une conséquence positive des agressions de Cologne. C'est que la loi en Allemagne a enfin évolué et aujourd'hui définit mieux ce que c'est une agression sexuelle et un viol.
Si il y a des hommes arabes qui ont fait cela, est-ce que c'est parce qu'ils sont arabes ? C'est là que la question se pose. Lorsque des Allemands commettent des violences sexuelles contre des femmes à la Oktoberfest, est-ce qu'on va dire c'est parce qu'ils sont allemands, c'est dans leur culture ? Est-ce qu'on va mobiliser, par exemple, toute l'histoire du nazisme pour expliquer le fait qu'il va y avoir des violences sexuelles envers les femmes à Munich ? Donc je crois qu'on doit s'interroger sur pourquoi, lorsque ce sont des Arabes, on va mobiliser une grille de lecture culturaliste. Pourquoi on ne le fait pas lorsque ce sont des Français ? Pourquoi on ne le fait pas lorsque ce sont des Allemands ? Autrement dit, on culturalise la violence sexuelle. Il y a une manière de croire qu'il y a des cultures violentes et des cultures qui ne le seraient pas. En fait, la domination masculine, c'est pas seulement chez les autres. Ça n'est pas simplement que les Européens ne violent pas et les Arabes violent. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop beau. Ça voudrait dire que, en fait, l'Europe aurait une longue tradition d'harmonie entre les sexes. On sait bien que non. Donc l'exotisme, c'est les arabo-musulmans, c'est les africains, c'est les autres. L'exotisme est une manière de nous mentir sur les rapports entre les hommes et les femmes dans notre propre société. Simplement, dès qu'on ne donne pas l'interprétation culturaliste, c'est-à-dire dès qu'on ne dit pas c'est parce que ce sont des Arabes, ou c'est parce que ce sont des musulmans, ou c'est dans leur culture, ou ils sont comme ça ces gens-là, dès qu'on cherche d'autres types d'explications, on est accusé de vouloir excuser, de vouloir justifier. On est systématiquement renvoyé à l'idée qu'on serait en train de minimiser. Je crois que tout le monde cherche à expliquer, mais qu'il est important de voir que expliquer, eh bien, c'est un enjeu, qu'il y a une bataille des interprétations, mais qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'effet d'autorité qui fait qu'on a beaucoup de mal à faire entendre autre chose qu'une grille de lecture qui n'est jamais qu'une répétition de la rhétorique qui s'est imposée chez les néoconservateurs depuis la fin de la guerre froide et qui a été renouvelée depuis le 11 septembre 2001, la rhétorique du conflit des civilisations, aujourd'hui présentée en termes sexuels.
Nous sommes là dans une sorte de ce que, une chose que je dénonce d'ailleurs, qui est cette émergence d'une ribambelle d'avocats d'office de l'islam, qui sont de souche française, j'emploie les mots, hein, moi je n'ai pas peur des mots.
Fawzia Zouhari, écrivain.
Et qui se sont mis dans la tête qu'il faut absolument nous défendre, comme si, par essence, nous étions des victimes. Et donc, par essence, ces gens de Cologne, même s'ils ont fait quelque chose, ben, ils restent quand même des victimes, ou alors, il ne faut pas en parler. On est dans cette idéologie victimiste qui fait que le musulman, pour certains intellectuels occidentaux, reste quand même, malgré tout ce qu'il peut faire, reste une victime et donc n'est pas responsable de ce qu'il fait. Et le vrai mépris est là-dedans. La compassion est là-dedans. Il y a une sorte de compassion chrétienne là-dedans, que je dénonce aussi. Cette façon de dire, non, allez, les pauvres, ils ont peut-être gaffé, mais ce n'est pas grave. Non, nous sommes sujets de notre histoire. Nous sommes responsables comme les autres. Et si nous devons reconnaître que nous avons tort, il faut le faire.
C'est le conjoint de Claudia Wozon qui portera plainte le 2 janvier via Internet. Pendant plusieurs jours, mère et fille ne quittaient plus la maison. Nous étions en état de choc. Après une nuit agitée, Claudia se rend sur la page Facebook sur le Netzwerk Köln, jeu de mots pour désigner un réseau sympa des habitants de Cologne. Tout d'abord, elle y tombe sur la publication d'un certain Icon. Le jeune homme raconte ce qui lui est arrivé avec sa copine la nuit de la Saint-Sylvestre à la gare centrale. J'étais sur le point d'écrire « J'ai vécu la même chose » quand j'ai vu que le profil d'Aken était bloqué par les administrateurs. Puis, une avalanche de discours de haine s'est abattue sur lui. « Tu tiens des discours haineux contre les étrangers, tu insultes les réfugiés. » Puis vint l'interdiction pure et simple de publier tout commentaire sur la nuit du Nouvel An. La page Netzwerk Köln a eu besoin par la suite de trier ses idées. La page de service populaire a mis 10 jours avant d'être de nouveau accessible en ligne. Puis continuait ce que Claudia Wozon juge rétrospectivement être presque pire que la chose elle-même, à savoir l'interdiction de l'évoquer, ainsi que le fait d'être traité de raciste, puisque les auteurs de ces actes avaient été indéniablement des étrangers.
Il s'est passé qu'on a eu la démonstration que il y avait un problème avec le sexe chez certains musulmans, pas tous, bien entendu. Et il faut réfléchir sur ça. Je pense que dans leur tête, ces gens-là, ils étaient dans une sorte de violence dont ils n'avaient même pas conscience, parce qu'ils n'ont pas conscience du contexte dans lequel ils sont. Il suffisait juste de me revoir, moi, dans ma société arabo-musulmane, et ce que moi j'ai vécu, ce que je peux encore vivre dans la rue arabe. La rue arabe, moi j'y étais il y a 2 mois, eh bien, quand vous êtes femme et que vous marchez dans la rue, il y a une agression tout le temps. Du regard, du langage qui est grossier et obscène, d'une mentalité qui, malheureusement, est en recul et qui ne comprend pas qu'on puisse être femme et libre et ne pas être objet de cette violence. C'est comme ça. Même les gamins, je les ai vus sur la plage, même les gamins nous regardent maintenant, regardent une femme comme si c'était un objet, comme si c'était un objet sexuel. Les femmes elles-mêmes ont fait comprendre, ont montré qu'elles étaient complices de ça et qu'il fallait les voir dans la cité avec leur voile.
Mais pourquoi vous faites ce lien tout de suite avec ces femmes voilées quand vous pensez Cologne et agresseur?
Eh bien parce que c'est un problème de rapport avec le corps des femmes. Le corps voilé des femmes, a priori, est un corps qu'on ne peut pas toucher, qui est moralisateur et moralisant et moralisé. Le corps des femmes, dans la conception islamique, est un corps à la limite qu'on ne peut pas voir. Et si on le voit, il faut qu'il soit caché. Vous savez qu'en arabe, le terme « nu » et « dévoilé », c'est-à-dire « sans voile », sont synonymes. Et donc, une femme sans voile, à la limite, est une femme nue. Et donc, on peut s'accaparer de ce corps, on peut harceler ce corps au nom ou bien d'une loi affichée, d'un dogme qu'on revendique, d'une idéologie ou d'une sorte de subconscient ou d'inconscient qui fait que les mentalités ont toujours continué à ne pas concevoir qu'une femme puisse se promener librement avec l'habit qu'elle veut. C'est quelque chose qui se transmet parfois dans la mentalité. Vous prenez parfois un gamin de 8, 10 ans, eh bien il passe à côté de vous sur une plage dans la rue arabe et il vous colle sa main sur les fesses. C'est comme ça. Pour lui, il est le mec. C'est normal. Cette mentalité, elle n'est pas automatiquement revendiquée politiquement, mais elle se transmet.
Je suis allée au marché. Je suis allée au marché.
Ça fait un mois que j'ai commencé la classe.
Ça fait 10 jours aujourd'hui. La classe,
c'est 2 days.
Larina, vous venez de quel pays, vous ?
Je suis venue d'Ukraine. Ça fait 3 ans que j'habite en France.
Et vous êtes arrivée pour quelle raison ?
Pour demander d'asile là en France.
Vous avez quel âge, vous, Ina ?
J'avais 23 ans, 22 ans.
Vous avez l'impression que les gens entendent quoi quand on parle de réfugiés ?
Donc, quand je suis venue en France, au début, je commençais à parler de demandeurs d'asile et j'étais un peu traumatisée par la réaction des gens parce que c'était toujours négatif. Et c'est pour ça, à partir de quelques moments, je commençais à cacher cette côté et d'arrêter à dire que je suis demandeur d'asile ou réfugiée parce que chaque fois, je sentis un comportement assez préjugé sur cette statue.
Est-ce que vous avez entendu parler des événements qui se sont produits à Cologne dans la nuit du 31 décembre 2015
Oui, j'ai attendu. Et j'ai attendu tout de suite la réaction de certains médias, un peu négative, et que c'était réfugié. Moi, j'ai eu le rencontre culture très, très différent, avec différents réfugiés. Par exemple, au début de demande d'asile, quand je commençais à prendre cours de langue gratuit, je suis venue dans un groupe, et c'était cours de langue que pour des demandeurs d'asile. Voilà. Et je me suis retrouvée dans des groupes que des hommes. Il avait juste notre enseignante, elle était femme, et... c'était horrible pour moi. Chaque fois, c'était vraiment pas du tout plaisir. Chaque fois, je fais des efforts pour venir là-bas parce que déjà, le comportement pour femmes assez différent pour professeurs et pour moi aussi, il avait beaucoup d'attention. C'était vraiment, vraiment terrible. Moi, ça me fait peur et je suis partie. Et après, je payais juste le cours de français dans une université et là-bas, je rencontrais des étudiants, etc. Après, j'ai vu, bien sûr, on a tous différents comportements. Et ce n'est pas du tout la faute ou l'erreur de cette personne. Elle est grandie avec ses valeurs de la société. Ou femme, elle n'est pas une personne. Ou on peut manipuler, on peut faire tout. Au début, bien sûr, ça me choquait beaucoup. Ça me dérangeait, j'étais très stressée. Mais après, j'ai analysé beaucoup. Et bien sûr, ce n'est pas du tout leur faute. C'est la faute de la régime où ils ont grandi, la régime de les valeurs de cette société, de leur culture. Et j'ai vu le changement. J'ai vu un grand changement de certaines personnes. On peut prendre un exemple assez facile, l'homosexualité. Dans différents pays, c'est une introduction, mais on parlait de ça, etc. J'ai vu des gens qui ont été tellement homophobes, ils ne pouvaient pas imaginer une existence dans la société. Et après, dans un an, je vois que cette personne, il peut facilement parler avec ça. Il a déjà des amis homosexuels, etc. Donc, je vois une différence d'intégration. Mais après, il a bien sûr des gens qui ont peur de la société française, qui ont peur qu'on le force d'intégrer, on le force de comprendre la culture. Et parallèlement, je trouve qu'il faut aussi garder les traditions, etc. Il ne faut pas oublier où tu es venu, etc. Mais pour moi, personnellement, bien sûr, il faut comprendre la culture. Où tu es. Si tu veux résister dans la société, si tu veux de vivre dans la société, il faut comprendre les normes de cette société.
Qu'est-ce qui pousse les hommes à agresser des femmes ? Qu'est-ce qui pousse des hommes à sauter sur des femmes, à les toucher, à leur faire peur ? Eh ben, en fait, malheureusement, ça s'appelle la domination masculine. C'est ça qui pousse les hommes à faire ça, c'est-à-dire la manière dont on montre les femmes, la manière dont on éduque les garçons. Alors, peut-être que là, effectivement, ce que je peux concéder sur certains arguments qui ont été entendus, c'est que je pense qu'effectivement, des hommes qui sont nés en France ont peut-être eu plus de probabilité d'avoir accès à une parole féministe, d'avoir accès à l'école à un discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, d'avoir accès à une société dans laquelle, déjà rien qu'en droit, les filles et les garçons ont les mêmes droits, ont le même droit d'hériter, ont le même droit de voter, et les garçons n'ont pas le droit, en France, de frapper, de violer, de tuer la femme d'un autre ou sa femme ou les femmes de manière générale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est sensiblement différent du parcours d'un garçon, parcours d'un homme, que ce que peuvent effectivement des hommes qui viennent d'Afghanistan. Eh ben, probablement qu'il y a un petit travail à faire pour que ils s'adaptent à notre société.
Notamment sur la question des droits, c'est peut-être ça la question la plus importante, c'est la question des droits.
Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment un discours de droit commun, c'est-à-dire tous les hommes, je parle pour la France, mais l'Allemagne c'est pareil, mais tous les hommes qui posent un pied en France doivent se conformer au droit français. Et donc les hommes qui sont déjà en France doivent aussi s'y conformer.
C'est pas à leur dire, voilà, nous avons le modèle supérieur et vous êtes de seconde catégorie, les ex-colonisés, gagner éventuellement sur des vraies valeurs et des valeurs universelles, et non pas sur un mode de vie qui serait occidental, même s'il est mauvais. Non, il faut faire comprendre à ceux qui font partie de notre monde arabo-musulman que certaines valeurs occidentales, elles sont universelles. Il faut les accepter comme telles. Les droits de l'homme, c'est quelque chose d'universel. Ben, les droits des femmes, ça devrait être la même chose.
Devant la gare, une dizaine de cars de police. Accusés de laxisme le soir du réveillon, les autorités multiplient les contrôles. Leur cible, ce sont les Nord-Africains et la population arabe. La police vérifie les identités. Issienne, 27 ans, originaire de Jordanie, condamne les agressions de la Saint-Sylvestre, mais il s'inquiète des contrôles aux faciès.
C'est compliqué pour les gens qui ont l'air d'étrangers et qui viennent des pays du Sud, comme moi. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a 10 véhicules de police, plus quelques autres encore là-bas. Et le problème, c'est qu'on est observé et contrôlé en permanence. Peut-être que dans quelques minutes, ça va être mon tour.
Sur les marches de la cathédrale, à deux pas de la gare, des fleurs et des pancartes détrempées, une jeune femme a écrit « Bas les pattes, je veux me promener sans peur et sans préjugés ».
Dans le 14e arrondissement de Paris, dans une jolie impasse arborée, chez Anne-Isabelle et Marc.
Bonjour, je cherche le numéro 10.
Oui.
Ah oui, bonjour. Wanli.
Enchantée.
Enchantée, madame.
C'est magique ici.
Ah oui, c'est super magique.
C'est la campagne. Bonjour.
Une seule règle dans la maison, c'est interdiction de fumer. Sinon, on peut tout faire.
En quoi ça consiste d'accueillir un couple de réfugiés chez vous ?
Pas grand-chose. On ouvre la porte, c'est comme d'avoir des invités.
Qu'est-ce que c'est que ce programme, en fait ?
Alors, calme, c'est comme à la maison. Ça fait partie de Singa. Moi, j'ai découvert ça parfaitement par hasard, en surfant sur le net.
Gratuitement, on prête pendant quelques mois ou quelques années,
oui,
une chambre. Il y a un délai ?
Non, c'est à nous de dire. Alors au début, j'ai dit un mois, peut-être deux. Donc là, ça fait un mois et demi. Bon, tout va bien.
C'était son idée. Elle était déterminée à le faire et puis elle me demandait après coup, ça ne gêne pas, mais bon.
J'avais déjà rempli le formulaire.
C'était un fait accompli.
Non, c'est jamais un fait accompli, ça se passe en plusieurs étapes. Donc la première fois, voilà, on se dit, bah tiens, je sais pas, je suis comme tout le monde, on voit un reportage à la télé, on entend quelque chose, je sais pas, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc on tape sur Internet, je suis tombée sur ce formulaire, je me dis, bon, ça mange pas de pain, je remplis le formulaire, et puis un jour on vous appelle, et puis on se dit, oh là là, bon, ça ok.
Moi, je m'appelle Ahmed Wanli.
Voilà Wanli.
Nous les deux, on a venu de Syrie, pour moi, il y a 2 ans, et pour ma femme, il y a 1 an, et combien de temps,
6 mois.
on vit en Damas. Je travaille graphiste depuis 15 ans, 16 ans, comme ça. Et ma femme, qu'est-ce que tu travailles ?
J'ai travaillé administratif assistant dans l'Arab League pendant 10 ans. Et maintenant, je ne travaille pas. Oui. Seulement étudier français, les langues françaises.
Pour nous, avant, notre première chose, on pense dans la vie, c'est de rester en vie. Maintenant, c'est de chercher un travail, chercher une maison. On dit maintenant, voilà, c'est bien, la famille est avec moi. On est dans un pays, c'est France, alors c'est France pour nous.
Et quand vous êtes arrivé directement ici, dans cette petite maison
Non, on est arrivé, ça s'appelle Montargis. Et après, on a changé l'adresse, on a déménagé à la, ça s'appelle maintenant Orléans. Et on était là-bas et un jour on a cherché sur l'internet, on a trouvé les courses Singa.
L'association Singa.
L'association Singa. On a trouvé des propos pour nous, les réfugiés, elle peut nous aider, les choses comme ça. On a contacté et un jour on a reçu un email, vous pouvez venir et faire un exam.
C'est un peu délicat, mais...
On s'est déjà mis d'accord entre nous que si les personnes en question étaient religieuses, ou si la femme portait la voile, on n'en voulait pas à la maison. Moi, j'en voulais pas. Mm-hmm. Parce que moi, je suis contre les religions de toutes sortes, et surtout les religions farouches comme ça, ça ne me disait rien de les avoir.
On n'a pas dit ça exactement comme ça.
Enfin... Je l'ai pas dit. On avait dit des choses semblables, en tout cas, ça, je me souviens plus exactement, mais bon, la voile pour moi, c'est un truc qui m'agace. Il y a 5 ans, à Paris, on voyait quasiment aucune femme voilée. Et depuis 5 ans, elles sont toutes devenues croyantes, mais à fond. Et même les jeunes, elles portent la voile. Alors, donc, pour moi, ce n'est pas une question de ferveur religieuse, c'est une question d'intimidation culturelle. J'ai un problème avec ça, je suis désolée de le dire, mais je le dis haut et fort, ça ne me gêne pas du tout.
Effectivement, moi je pensais qu'elle serait peut-être voilée. C'est vrai que le jour où je les ai retrouvées dans le café parce que j'étais seule, et j'étais installée en terrasse, et puis chaque personne qui passait, je me disais c'est peut-être eux, c'est peut-être eux. Et quand je les ai vues arriver, je me suis dit, bah, ils ressemblent à des Français, ils ne sont absolument pas... ils sont comme nous, et ils se sont installés, on a commencé à discuter, et je me suis dit, oh là là, coup de bol, ils sont vraiment sympas, et ils sont citadins, ils sont, enfin, lui, il est graphiste, en plus, moi, j'ai travaillé dans le graphisme.
Les réactions autour de vous, c'est... Qu'est-ce qu'on vous renvoie ? Que vous êtes héroïque ? Que vous êtes...
Oui.
Les gens sont étonnés.
Moi, j'ai pas l'impression.
Ils réagissent comme si, ah bon, vous avez fait ça, c'est pas dangereux.
Pourquoi ça vous fait rire ?
Parce que quand vous les connaissez, ils ont pas l'air très méchants. Hein. Ils sont comme nous, exactement comme nous.
Le premier jour, on a discuté un petit peu. On a dit si vous avez des règles dans votre maison, il faut que vous nous dire. On a pensé, même nous, si on va faire ça, on a des choses dans notre maison, il faut... c'est pour ça qu'on a demandé qu'est-ce qu'on doit faire chez vous.
C'est pas facile d'habiter avec notre famille, c'est la première fois pour nous, habiter chez la famille.
Chez quelqu'un?
Oui, chez quelqu'un. Mais Elisabeth et Marc, c'est... très gentille, incroyable famille avec nous.
Bon, Roula, elle est très très discrète. Elle parle pas beaucoup. Elle rentre dans sa chambre après le repas. Elle prend le repas avec nous.
Non, mais elle parle quand même. Quand on est. Non, elle est pas refermée non plus.
Non, je dis pas ça. Mais on dîne avec elle. Bon, oui. On passe la soirée avec elle, mais vraiment pas la soirée, juste le dîner. Elle monte direct après le repas. Une fois, je l'ai sortie, on est allé au café ensemble pour un verre le soir. Elle était contente de sortir parce qu'elle ne sort jamais. Voir les lumières, un peu de vie sociale, bon, ça lui a fait du bien, mais une seule fois depuis qu'elle est là.
C'est vrai, même pour nous, on a pensé si les gens vont nous accepter ou non, qu'est-ce qu'on doit faire. La première chose, on a le problème de la langue, il faut qu'on parle. connecter avec les autres, pour sortir, pour faire les choses. Quand les gens me regardent, il faut que j'approche. Il ne faut pas que je parle pas et feu. Moi, pour moi, la migration avec les gens, la première démarche, c'était avec un sourire. De dire bonjour à les gens, de ne pas cacher, de ne pas fermer les portes. C'était ça. C'est pour ça, oui, nous encore, on a cherché de voir comment les gens aiment. Qu'est-ce que les choses qu'il faut qu'on faire pour les autres. Les fêtes en France, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met sur la porte dans les fêtes? Il y a des choses avec Noël, avec... Même la petite fenêtre, avec un petit fleur. Si on met un petit fleur sur notre fenêtre, c'est un bon message pour les autres.
Je pense que ce qu'il faudrait qu'ils fassent, plus, c'est de sortir de la maison, plus souvent. Aller même se balader dans Paris, aller dans les musées, dans les cafés, enfin n'importe quoi, juste sortir.
Mais nous, on a tendance à vouloir les pousser un peu, pousser les dehors, pas parce qu'on n'a pas envie de leur compagnie, mais parce que c'est bien pour eux. Mais tu sens qu'ils sont, surtout elle est un peu sous le choc toujours. Elle n'arrive pas à faire des choses simples, très simples. Quand elles viennent ici, c'est vraiment une œuvre de paix. Elle ne quitte pas sa chambre beaucoup. De temps en temps, elle descend pour prendre une tasse de thé. Mais elle est vraiment... On sent qu'elle est en convalescence un peu, toujours.
Après les événements de Cologne, beaucoup d'intellectuels ont réagi en disant « Ça, c'est dû à la culture. On n'a pas les mêmes cultures. » Et en fait, il ne suffit pas d'accueillir les réfugiés. Il faut bien les accueillir. Et pour bien les accueillir, il faut aussi leur inculquer des règles et des valeurs. Ça vous parle, ça?
Effectivement, il y a des problèmes culturels. Mais je pense que dans leur pays, ce n'est pas acceptable de violer une femme plus que ça l'est en Allemagne. Et on ne va pas dire qu'ils viennent d'une culture où c'est OK d'agresser les autres.
Je sais pas. Hein? Non. La femme, elle est inférieure. Des pays dans le Moyen-Orient, souvent. Et les hommes sont les maîtres. Et la femme, elle, ça compte pas. Bon, il y a 1000 exemples où les femmes sont maltraitées. Donc, quand tu grandis dans une culture qui accepte ça, qui...
Parce que le viol, c'est OK, le viol?
Pas le viol, mais bon, il y a tout entre le viol et c'est pas que les individus, c'est la culture, c'est sûr. Parce que chaque personne, il apprend de la culture.
Oui, mais je pense qu'on se lâche dans des situations qui sont exceptionnelles.
Ça, c'est vrai aussi.
Pendant les guerres, par exemple, il y a des soldats qui font des tas de choses aux femmes locales qui sont de culture, qui sont même de nos cultures. Mmh. Et donc, on ne peut pas dire que ça fasse partie de leur culture, mais je crois que quand ils se retrouvent dans une situation qui est parfaitement inhabituelle, où il y a de la violence dans l'air et un effet de foule, on s'entraîne les uns les autres...
Et soudain, on voit sur le journal, il y a un problème. Il faut encore maintenant faire un autre. Pourquoi on n'arrive pas un jour que voilà maintenant...
On n'a plus rien à prouver.
Oui. Pourquoi il faut tout le temps dire les gens, c'est pas moi. Ça veut dire donner l'excuse pour les autres. Ça n'arrête pas. Si c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est quoi les Syriens, les réfugiés, il ne connaît pas. Il va mettre l'image qu'il veut, parce qu'il n'a pas nous à côté, il ne connaît pas notre histoire. Après qu'il nous connaît, il dit ça, d'accord, on peut discuter. Mais avant, il y a beaucoup de choses, vous pouvez choisir. Je suis quoi pour vous? Je suis un graphiste, je suis un homme, je suis un Syrien, je suis un... C'est comme ça, les gens peuvent choisir, c'est ça.
Fawzia Zouhari, Alice Schwarzer, Anne-Cécile Maïfer, Éric Fassin, Ina, Ahmed Eroula, Anne-Isabelle et Marc. Extrait du livre de Alice Schwarzer, La nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, traduit par Caroline Elias. Merci à l'association Singa, au programme Calme comme à la maison, à l'association BAM. Merci à Pierre Monégier et à France 2. Prise de de son Yann Frécy, mixage Valérie Lavalard, un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire.
Victime, combattante, soignante, médecin, militant, avocate et journaliste, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Et pour démêler les fils, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le train ou nous réécouter à la maison, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous irons renifler le parfum des roses.